Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Merci beaucoup Léana, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Une semaine formidable, une émission que j'ai le plaisir d'animer avec à mes côtés Bruno Salvé, bonjour.
Bonjour.
Ricardo Baroni, bonjour.
Bonjour.
Et Olivier Deneau, bonjour.
Bonjour.
Olivier Deneau, bonsoir messieurs. Donc au programme ce soir, double voire triple dose de rugby, on va parler de la première journée de Top 14, la fin des phases de poule de la Coupe du Monde féminine, un petit mot aussi du Rugby Championship, ça va, avant de passer également au cyclisme, le Tour d'Espagne, la Vuelta en ce moment, le Tour des Royaumes-Unis, il y a également la Formule 1, MotoGP, pas mal de sports cette semaine et ce week-end, on va donc forcément démarrer avec le rugby, le grand retour attendu du Top 14 avec vous Bruno Salvé, cette première journée, est-ce qu'il y a déjà des enseignements à tirer sur les équipes qui étaient annoncées favorites, est-ce qu'elles ont répondu présent ?
Oui, complètement. Le champion s'est imposé, le vice-champion s'est imposé et les deux demi-finalistes se sont imposés. Donc c'est vrai que là, on attendait tous avec impatience la reprise du Top 14. Et donc le Stade Toulousain ce matin a fait un joli coup en allant s'imposer à Clermont, donc de belle manière.
Victoire 34-24.
34-24 face à une équipe de Clermont qui va être rugueuse et qui va être difficile à jouer cette année. Bordeaux, donc le finaliste, s'est imposé face à La Rochelle, qui va être aussi un sérieux client cette année.
Donc, oui, c'est une belle victoire d'entrée, hein, parce que La Rochelle, quand même, concurrent à chaque fois sur les dernières saisons.
Absolument, mais bon, Bordeaux avait quand même l'avantage de jouer à la maison. Donc c'était une victoire, on va dire, un peu plus logique. Après, Toulon est allé s'imposer à Montpellier. Donc ça, c'est une bonne chose pour les Varois. Et donc Bayonne a aussi s'imposé à Perpignan, ce qui n'est jamais une chose facile d'aller s'imposer en pays catalan. Donc bon début pour ces équipes qui étaient déjà sur le haut de tableau l'année dernière. Le Stade français s'est imposé à la maison face à Montauban. Donc Stade français qui a fini quand même, a failli être relégué l'année dernière, donc qui commencerait bien sa saison à la maison. Et puis la petite surprise, c'est Pau, donc l'équipe de Pau qui est allée s'imposer à Castres, alors que Castres, quand même, c'est une Pierre Fabre, ce terrain est quand même une citadelle imprenable habituellement. Et ben, les Palois, avec une équipe remaniée en plus, avec très peu de joueurs internationaux, est allée s'imposer sur un petit score, donc 17-15, mais c'est quand même une bonne prestation pour cette jeune équipe de Pau qui va essayer de faire son maximum cette année.
Oui, alors on le disait, hein, le promu Montauban, défait lors de la première journée. Voilà, ils ont encore le temps. C'est le Stade français en face, le Stade français qui se relance, qui se relance après une saison catastrophique, la saison passée.
Absolument. Et Montauban qui arrive de Pro D2. Donc c'est vrai que le niveau de la Pro D2 et le Top 14, c'est quand même deux niveaux différents. Mais Montauban qui a montré de belles choses, hein, qui a quand même réussi à marquer 24 points contre le Stade français. Donc ça va être l'apprentissage. Il va falloir qu'il soit rapide parce que le calendrier va faire que Montauban va recevoir Lyon lors de la prochaine journée. Donc ça va être rude pour cette équipe-là. On sait très bien qu'à chaque fois qu'une équipe qui monte pour la première fois en Top 14, c'est très, très difficile de se maintenir. Donc les Montalbanais, voilà, ont l'opportunité de jouer à ce niveau-là et on espère pour eux qu'ils auront quand même quelques victoires cette année.
Ouais, alors ça va être compliqué, hein, on le disait, face à Lyon la semaine prochaine. Lyon qui a écrasé lors de la première journée, écrasé le Racing, victoire 32-7.
On a du mal, quand on voit la richesse de l'effectif du Racing, il y a vraiment quelque chose qui n'arrive pas à prendre. Donc après, on est en début de saison, hein, les équipes se sont sortes de préparation. Donc généralement, pendant cette intersaison, on travaille énormément sur le physique et très peu sur l'organisation générale du jeu et sur le plan de jeu. Donc c'est peut-être ça aussi qui n'est pas encore au point, mais c'est vrai que pour une équipe de ce standing-là, du Racing, aller prendre 30 points chez les Lyonnais, ça fait un peu désordre.
Voilà. Oui, alors on va rappeler les résultats de cette première journée. Toulouse, le Stade toulousain qui est allé battre Clermont, c'était en clôture ce matin, 34-24. En ouverture de cette journée, le Stade français donc, s'est imposé à domicile contre Montauban, 47-24. Les autres résultats, victoire à domicile de l'UBB sur le Stade Rochelet, 23-18. Toulon à l'extérieur à Montpellier, 27-17. Pau qui est allé s'imposer donc à Castres, 17-15. Un match assez serré. Le Loup, Lyon, qui a battu, écrasé, même le Racing 92, 32-7. Et l'Aviron Bayonnais, donc, victoire 26-19 sur l'USAP Perpignan. Le classement, donc, Lyon, Stade français, Stade toulousain, Racing, Aviron Bayonnais et l'UBB. Et la section paloise, Amboise aussi qui, donc, qui se sont imposés, l'UBB, les deux premiers, le Loup et le Stade Français avec victoire bonifiée, donc qui sont en tête après cette première journée. La seconde journée, c'est dès le week-end prochain.
Dès le week-end prochain, oui, deuxième journée donc, du top 14. La saison va être très longue, donc je pense qu'il faut, préserver les effectifs. On l'a vu ce matin lors du match qui opposait Clermont à Toulouse. Les chocs ont été intenses. D'ailleurs, deux joueurs du Stade Toulousain qui sont sortis sur protocole commotion. Donc, Pitaaki, le trois quarts centre, et puis le troisième ligne, Ntamack, le frère de Romain. Donc, ça tape de plus en plus fort. Donc, il va falloir aussi gérer l'effectif tout au long de la saison. Et donc, ça va être un casse-tête pour les petits budgets, entre guillemets, parce que des clubs comme Montauban, je pense qu'ils n'ont pas du tout le même budget que les grosses écuries telles que le Racing ou Toulouse, bien sûr.
Toulouse qui fait 100 Peato Movaca. Toujours absent, oui, alors, signaler le Calédonien.
Oui, Peato Movaca qui normalement doit revenir en début d'année prochaine puisqu'il sort d'une grosse blessure, rupture des ligaments croisés. Et puis Antoine Dupont qui reviendra peut-être au mois de novembre aussi puisque lui aussi a eu cette blessure au niveau des ligaments croisés du genou. Donc on espère que ces joueurs vont revenir au top niveau. Et on va signaler quand même la très bonne prestation aussi de Rodrigue Netti, donc le Calédonien qui a bien tenu son poste ce matin dans son rôle de pilier gauche. Pardon.
Top 14, donc première journée terminée. On attend déjà la deuxième le week-end prochain. Mais il y a aussi du rugby à l'international en Angleterre pour les dames, les femmes qui disputent la Coupe du Monde.
Oui.
Avec la qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale. Une qualification attendue, logique. Voilà, il y a eu de très beaux résultats, mais quand même, tout de même, de belles choses sur le terrain pour les Françaises.
Oui, relativement facile. Bon, l'Afrique du Sud chez les féminines, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est pas l'équipe d'Afrique du Sud chez les hommes. Donc c'est vrai que les Françaises se sont largement imposées. Donc c'est bien, le contrat est rempli. Elles ont gagné leurs trois matchs de poule et on se retrouve en quart de finale face à une équipe d'Irlande qui est beaucoup plus accessible, qui est accessible. Elle devrait passer la marche de l'Irlande pour se retrouver.
C'est là que ça risque de se compliquer, en demi-finale.
En demi-finale, oui, elles vont jouer soit les Anglaises...
Soit les Écossaises.
Soit les Écossaises. Bon, il ne faut pas se leurrer, elles vont jouer les Anglaises, puisque les Anglaises sont archi-favorites, elles sont championnes du monde en titre, elles jouent à la maison. Et lors de la préparation de l'équipe de France féminine...
Elles ont affronté l'Angleterre.
Elles ont affronté l'Angleterre, et les Anglaises étaient largement imposées face aux Françaises. Donc voilà, il va y avoir un esprit de revanche sur ce match-là. Bon, on va prendre les matchs les uns après les autres, mais bon, voilà. Donc prochaine étape pour nos Françaises, ce sera l'Irlande. Et ensuite on verra
L'Angleterre ou l'Écosse.
Cette demi contre les Anglaises, on peut l'annoncer déjà.
On peut déjà s'avancer.
Ce serait vraiment la grosse surprise si les Écossaises s'imposaient face aux Anglaises.
Donc il y aura une équipe de l'hémisphère nord en finale. Dans l'autre partie du tableau, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud en quart de finale, Canada, Australie. Voilà, c'est là aussi les favoris sont là, les favoris répondent présents.
Oui, absolument, les Canadiennes qui sont numéro 2 mondial, donc qui devraient largement passer. Donc ça laisse présager une belle demi-finale entre les Black Ferns, donc les All Blacks féminines, qui affronteront sans doute les Canadiennes en demi. Donc deux belles demi-finales en perspective, France-Angleterre et Nouvelle-Zélande-Canada.
Nouvelle-Zélande au masculin aussi cette fois pour être complet sur l'actualité rugby puisqu'il y a le Rugby Championship en ce moment, la troisième journée qui s'est jouée ce week-end. La Nouvelle-Zélande en tête, et la question c'est l'Afrique du Sud. Que fait l'Afrique du Sud en ce moment? Deux défaites sur ces trois premières journées, c'est compliqué de se relancer pour eux, où est-ce qu'ils en sont?
C'est compliqué, oui, c'est compliqué pour l'Afrique du Sud, mais bon, ça fait du bien aussi de les voir perdre un peu, hein, parce que cette équipe-là...
Après, les deux Coupes du Monde...
Oui, et puis voilà, donc ils ont, je pense, un effectif qui commence à être vieillissant. Ils essaient aussi de mettre un peu plus d'animation offensive en essayant d'écarter le jeu. Donc, et puis bon, les conditions météo à Auckland le week-end dernier étaient terribles, avec un début de match qui a bien commencé, mais après le déluge est tombé sur cette pelouse. Donc ça n'a pas favorisé le grand rugby de mouvement. Par contre, je pense que vu l'affrontement et le combat qu'il y a eu durant ce match, les kinés et les toubibs ont dû avoir énormément de travail. Et puis les acteurs ont dû très bien dormir parce qu'il y a eu un engagement vraiment total. Et quand on connaît la puissance et des joueurs sud-africains et les Blacks, voilà, il y a eu de très gros chocs.
Ouais. Oui, on va rappeler le classement, la Nouvelle-Zélande qui est donc en tête avec deux victoires, 10 points pour les Néo-Zélandais, l'Australie deuxième, 9 points, l'Argentine et l'Afrique du Sud qui sont donc derniers avec 5 points et une victoire sur les trois premières rencontres.
L'Argentine qui a failli surprendre les Australiens chez eux quand même, puisque les...
28-24 pour l'Australie, effectivement.
Oui, les Wallabies marquent vraiment en toute fin de match et ça a été vraiment... c'est une équipe qui a des ressources, cette équipe australienne, parce qu'elle avait réussi à battre les Sud-Africains chez eux, et en Afrique du Sud, en étant menée de 22 points, et là, elle a eu les ressources nécessaires. Enfin, c'est une équipe argentine toujours très difficile à manier.
Qui a battu la Nouvelle-Zélande, hein, il faut le signaler.
Et qui a battu la journée précédente, donc la Nouvelle-Zélande en Argentine. Donc c'est une équipe qui progresse énormément, avec tout son effectif de joueurs qui évoluent en top 14. Il y a énormément de joueurs qui évoluent en top 14. Donc voilà, l'Argentine progresse. Après, l'Afrique du Sud, on s'en fait pas trop pour elle. Je pense que là, ça va être compliqué de gagner ce Rugby Championship. D'autant plus que la semaine prochaine, ils rejouent les Blacks et toujours en Nouvelle-Zélande, donc à Wellington. Donc ça va être compliqué d'aller bouger les Blacks chez eux. On verra bien.
Ce sera samedi, les deux prochaines rencontres, samedi,
samedi 13.
Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et, on le disait, Australie, Argentine pour cette quatrième journée.
Absolument.
On a fait le tour du rugby. Merci beaucoup Bruno Salvé pour toutes ces précisions.
Avec grand plaisir.
14, Coupe du Monde, Rugby Championship, on est donc complet. On peut passer au cyclisme puisqu'il y a plusieurs grands rendez-vous sur ce mois de septembre, après le Tour de France qui s'est terminé il y a quelques semaines déjà. On est en Espagne, la Vuelta, après 15 étapes, on est déjà à la 15e de ce Tour d'Espagne. Le favori est devant, Jonas Vingegaard, mais pas très loin derrière, on a le Portugais João Almeida. On est avec vous, Ricardo Baroni, pardon.
C'est ça. Donc il est à 48 secondes, ce qui nous fait un super suspense, puisqu'il nous reste plus qu'une semaine pour la fin de cette Vuelta. Une Vuelta très animée, aussi bien au niveau de la course qu'au niveau du public, puisqu'il y a des manifestants qui font que certaines étapes ont été écourtées, ils n'ont pas pu atteindre la ligne d'arrivée, ce qui est bien dommage, ce mélange entre le sport et certaines idées de certaines personnes qui manifestent et qui prend en otage le sport, ce que je trouve très dommage. Chacun a le droit de s'exprimer, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de sport.
Un coup de gueule avant l'heure.
Oui, on peut dire ça comme ça. Ce que je voulais quand même rappeler de cette Vuelta, ça a été le début de David Godu, qui a été quand même un début de ce Tour d'Espagne qui faisait énormément espérer pour la suite, puisque l'année dernière, David Godu avait fait un excellent Tour d'Espagne. Donc, il a fait de très bonnes places en début de Vuelta. Il a même gagné une étape devant Pedersen et comment s'appelle, Vingegaard.
Il a porté le maillot rouge.
Oui, mais justement, quand il a gagné cette étape, ils étaient dans le même temps avec Vingegaard, Jonas. Donc, c'était simplement au placement de la première étape qui était arrivée au sprint. Donc, il y avait des placements, un placement favorable à Jonas Vingegaard. Et le lendemain, David Godu s'est fait violence, est allé faire le sprint, si j'ai bonne mémoire, dans les 20e, ce qui lui a permis de prendre le maillot de leader de
la Vuelta. 25e.
Ce qui lui a permis de prendre le maillot de leader de la Vuelta. Ça fait toujours plaisir, puisque David Godu, ça fait quand même un petit moment qu'on l'attend. Une année, il avait fait même 4e du Tour de France. Donc c'était un retour qui faisait plaisir. Ensuite, il y avait un contre-la-montre par équipe. Là, il a perdu le maillot. C'est l'UAE qui a gagné le contre-la-montre. Et Jonas a repris son maillot. C'est un peu dommage. J'espérais une suite plus favorable pour David Godu. Il a eu une chute. Et cette chute a fait que maintenant, il est très très loin au classement général. C'est bien dommage, puisque j'espérais en David Godu quelque chose d'assez exceptionnel. Il ne faut pas oublier qu'en début d'année, il a même gagné des courses en Arabie ou en Emirates. Je ne sais plus où c'était, devant un coureur du AE. Donc, il avait commencé vraiment très bien la saison. Il a eu certaines chutes qui ont fait qu'ils l'ont pénalisé. Donc, j'espérais un retour, mais pas un retour ponctuel, mais un retour sur une longue durée. Donc, c'est bien dommage.
Donc, c'était sur le Tour d'Oman.
Tour d'Oman.
Terminé troisième au classement général d'ailleurs. Voilà. Et, mais qu'est-ce qui manque à nos Français pour venir titiller les plus forts? On voit sur le Tour de France aussi, là sur la Vuelta face à Jonas Vingegaard, il manque encore quelque chose parce qu'après 5-6 étapes, les Français sont là. Mais pour tenir sur ces 2-3 semaines d'un grand tour, qu'est-ce qui leur manque?
Déjà, à cette Vuelta, la stratégie des équipes françaises est différente puisqu'ils ont envoyé des jeunes, des très jeunes de 20 ans, pour acquérir une expérience pour le futur. Et je trouve que dans les jeunes français, il y a vraiment quelque chose qui va arriver puisqu'on a le Tour de l'Avenir qui a été gagné par un Français, Paul Sexas, donc 18 ou 19 ans. Et donc, il y a une jeunesse qui arrive française qui est très intéressante pour le futur. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas présents sur une course par étapes comme la Vuelta ou le Tour de France. Mais on a eu quand même ce week-end une belle surprise. Hein, c'est que Romain Grégoire a gagné le Tour de Grande-Bretagne et pas devant n'importe qui, puisqu'il l'a gagné devant Remco Evenepoel et devant Julien Alaphilippe. Donc, ça fait quand même plaisir de voir ce genre de podium. Ce qui est dommage, c'est que Romain Grégoire a déjà dit qu'il n'allait pas au championnat du monde au Rwanda. Donc l'étape Rennes a été gagnée par Remco Evenepoel et lui il s'est accroché. Et donc comme il avait gagné la quatrième étape, donc il termine vainqueur de cette course par étape, donc le Tour de Grande-Bretagne avec 2 secondes d'avance.
Oui, 2 petites secondes d'avance sur Remco.
Sur Remco et 4 secondes sur Julien Alaphilippe. Ça fait quand même plaisir de voir Julien Alaphilippe revenir aux premières places. On attend encore une belle victoire cette année dans sa nouvelle équipe, son équipe suisse Tudor. Donc on voit que les Français sont présents. On va avoir prochainement des classiques au Canada. Là aussi, je pense que les Français vont être dans les premiers. Maintenant, en revenant sur la Vuelta, c'est vrai que les Français, on ne les voit pas trop présents au classement général. Mais quand on regarde les étapes, quand il y a des échappées, ils essayent de rentrer dans les échappées pour essayer de gagner une étape. Il y a une mainmise sur les étapes de l'équipe UAE qui a déjà gagné 7 étapes sur la Vuelta, donc ça fait beaucoup. Ils en sont à 81 victoires de l'année puisque Del Toro a gagné une course en Italie devant un coureur qui s'appelle Christian Scaroni qui est venu participer au Tour de Nouvelle-Calédonie en 2019. Donc l'équipe UAE a vraiment un staff très important. Il y a eu un suspense qui était aussi l'attitude de Johan Ayuso durant ce Tour d'Espagne, qui a gagné 2 étapes, mais qui a fait, on va dire, pour porter de l'aide auprès de son leader Joao Almeida, il a été plutôt absent que présent. Donc ça a créé une certaine tension et ça a permis de voir certaines stratégies changer en fonction de l'étape en cours.
Et les stratégies, on va en parler justement avec les mondiaux qui approchent à grands pas à la fin du mois, 26 au 28 septembre.
C'est ça, au Rwanda. Donc il y a beaucoup de coureurs qui ont décidé de ne pas y aller, puisque ça va être une course avec énormément de dénivelé. Donc il y a des coureurs qui ont coupé la saison après le Tour d'Espagne, après le Tour de France, et qui reprennent tranquillement maintenant. Il y a aussi les coureurs qui sont sur le Tour d'Espagne. Qui va décider d'aller au Rwanda, on ne s'en bouscule pas, quoi.
Vu justement, le dénivelé, est-ce qu'on a déjà un peu les têtes d'affiche de ce rendez-vous, côté français, côté internationaux? On a annoncé Jonas Vingegaard qui finalement n'ira peut-être pas ou n'ira pas tout simplement.
Tout à fait. Jonas aurait été vraiment une personne adéquate pour ce genre de course, puisqu'il y a énormément de dénivelé et que c'est un excellent grimpeur. Au niveau de l'équipe de France, le choix fait par l'entraîneur national Thomas Voeckler est très difficile, puisque certains disent être présents. Et après, en cours de route, disent « non, on a changé d'idée, on n'y va pas ». On sent un manque d'enthousiasme d'aller au Rwanda. C'est en altitude, l'humidité en fin d'année. Certains prennent comme excuse la sécurité et le plus important, c'est le dénivelé. S'il n'y avait moins de dénivelé sur cette course, peut-être que certains coureurs décideraient d'y aller. Il y a aussi des coûts très importants pour les fédérations et c'est pour ça qu'il y a moins de coureurs qui vont aller participer à ces championnats du monde.
Dans des championnats du monde de cyclisme donc au Rwanda et on va parler de notre championnat du monde qui nous intéresse, celui d'athlétisme handisport avec vous Olivier Degnaud.
Oui.
Vous êtes l'entraîneur donc de cette équipe calédonienne.
Je suis responsable du pôle France qui est basé à Nouméa. On a une dizaine de sportifs handisport et on travaille également avec la Ligue d'athlétisme, notamment avec Eric Royard qui est responsable du CTE d'athlétisme. Donc on a fait un pôle athlétisme et puis donc c'est vraiment de l'inclusion, que ce soit du handi ou du monde valide. Donc on travaille en collaboration.
Et vous allez partir vous aussi à la fin du dans quelques
alors,
jours.
Oui, parce que on est trois à faire partie du déplacement. Moi je suis le manager adjoint de cette équipe de France. Eric Royard, lui, c'est le responsable, c'est le référent des lancers qui sera présent également. Et au niveau du staff, encore, on a Aymeric Chatté qui accompagne également. Et au niveau des athlètes, surtout, donc Pierre Fairbank sélectionné en course fauteuil.
Encore, 100, encore 400, est toujours, 800, toujours là.
Encore et toujours, bah ouais, mais performant.
Et qui performe, on l'a suivi en France, en Suisse ces dernières semaines, derniers mois.
Tout à fait, il a encore été trois fois champion de France cette année, au dernier championnat de France. Il a le niveau mondial puisqu'il est il a la quatrième performance mondiale sur 100 mètres, la troisième sur 400. Il doit être aussi troisième sur 800 cette année, sachant que sur les deux années, il est toujours dans le top 4. Il y a Félicien Siapo qui a également brillé au championnat de France puisque lui, alors il court dans la catégorie des amputés tibiaux. Il est champion de France aux 200 mètres et troisième aux 100 mètres. Faut savoir qu'il est troisième aux 100 mètres parce que les coureurs courent, enfin les courses sont mélangées, un type de handicap et c'est un classement au point. Donc il est derrière deux gars qui sont très forts puisque il a couru avec un non-voyant qui a été médaillé d'argent aux 100 mètres. Donc c'est Timothée Adolphe, hein, médaille d'argent sur 100 mètres à Paris et puis un autre qui est deuxième mondial sur 100 mètres dans la catégorie des IMC. Et le troisième, il a battu le record d'Europe au passage. Enfin, il a égalé son record d'Europe au passage lors de la finale des championnats de France. Et puis le troisième, c'est Vittorio Cavacava. Vittorio Cavacava, qui est un lanceur en fauteuil, un ancien volleyeur qui a eu un accident il y a 5-6 ans de scooter et qui est passé amputé fémoral, lui qui est passé au lancer fauteuil. Donc lancer de poids, lancer de javelot. Pareil, sixième mondial actuellement et il a fait ses minima lors des championnats de France.
Là, c'est la pleine préparation. On les voit souvent au rendez-vous à l'entraînement pour partir, oui, dans l'espoir, encore une fois, de faire des podiums. C'est ça l'objectif en partant à ces championnats du monde?
Alors, c'est un grand espoir de podium. Donc, je rappelle, pour Félicien, record d'Europe, déjà, ça le situe très bien, entraîné par José Marquez. Félicien, je le rappelle. José Marquez, qui ne fera pas partie du déplacement, il a souhaité laisser Félicien s'exprimer. Puisqu'on part à la fin de la semaine, Félicien va participer à un stage national pré compétition, les autres partiront directement. Donc oui, les ambitions, bah, c'est de faire un podium, en tout cas pour Félicien, pour Pierre et pour Vito. On est en pleine préparation terminale, là c'est vraiment de l'affûtage. Moi je trouve qu'ils sont très très bien, en grosse progression, donc le niveau est encore plus fort qu'au moment des championnats de France. Bah, c'est normal, la pression monte et puis maintenant ils sont prêts à partir, prêts à en découdre, en tout cas lors de cette compétition importante. On va retrouver la plupart des sportifs qui étaient présents lors des derniers Jeux Paralympiques de Paris en 2024. L'équipe de France est composée de 19. Alors, on était 24, il y avait 24 sportifs présents, athlètes présents à Paris en 2024. Là, l'équipe de France sera composée que de 19 athlètes qui ont réalisé les minima. Toujours trois Calédoniens.
C'est des minima qui ont été augmentés ou c'est...
Les minima ont été durcis par rapport aux Jeux de Paris parce que le niveau dans le monde du handisport, enfin du paralympique, ne cesse d'augmenter. Ça se professionnalise de plus en plus. Et c'est vrai que ça demande de plus en plus de... En fait, si tu stagnes, tu régresses au niveau mondial, quoi. Si tu stagnes, si tes performances ne progressent pas, tu régresses au niveau mondial. Donc il faut toujours progresser. Et c'est pareil dans tous les sports, tu me diras. Mais en tout cas, dans le monde paralympique, ça se professionnalise énormément. Et c'est un bien pour le sport, mais on retrouve aussi tous les travers. C'est-à-dire, quand je dis tous les travers, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour s'entraîner, il faut du temps pour récupérer, puis il faut aussi de l'argent pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir se dégager du temps pour l'entraînement. C'est-à-dire, et comme nous, on s'entraîne ici en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que c'est un peu plus difficile qu'en métropole pour trouver des accords avec certains employeurs, puisque avec les fédérations et les employeurs, des accords sont signés. Nous, on est obligé des fois de jongler avec certains emplois du temps. Mais on arrive à s'en sortir, on est pas mal aidé, c'est vrai qu'on est pas mal suivi quand même par la DJS et les aides, l'ANS au niveau national, les FEDE. Ça, je parle pour la Fédération Handisport. Donc de ce côté-là, on fait ce qu'on peut avec le pôle et on arrive à faire du très bon boulot sur le territoire. Je dirais que c'est vraiment important de préciser que ces athlètes-là s'entraînent ici.
Ici, sur le territoire.
Ont été détectés sur le territoire. Et ont progressé et sont arrivés jusqu'à haut niveau, même des médailles. Je prends le cas de Pierre Fairbank, qui est toujours là, comme tu le dis, et qui...
Mais ça fait plaisir à voir de voir.
Mais non seulement ça fait plaisir à voir, mais ça fait plaisir de certains l'ont connu au collège et au lycée, Jules Garnier, ou je sais plus où il était au collège, mais en tout cas, il le voyait se balader, et c'est vraiment un enfant qui a grandi, qui a progressé, et qui s'épanouit à très haut niveau ici, qui s'entraîne ici, voilà. Donc, on sait faire aussi du haut niveau. Après, c'est pas possible dans tous les sports, hein, je suis bien d'accord. En rugby, faut s'expatrier, mais bon. Ouais.
Je pense que tu mets en avant les athlètes, mais je pense qu'il faut aussi mettre en avant le travail d'Olivier, qui depuis plusieurs années œuvre avec justement ces athlètes-là. Et quand on se rend compte que 3 Calédoniens sur 19 sur la délégation française, par rapport au nombre de licenciés, par rapport à la population, c'est un ratio qui est énorme. Donc, félicitations à toi et pour le travail que tu fais. Quoi.
C'est un travail d'équipe, attention. Hein. Je suis responsable du pôle, mais Eric Royard, enfin, s'il n'y a pas José, s'il n'y a pas Eric, s'il n'y a pas tout ce...
C'est un travail collectif autour de ces athlètes.
Hein, on a un staff aussi bien médical, logistique. C'est important de préciser que ce travail d'équipe est là, et tu le sais très bien que toutes bien les sûr. Institutions qui nous suivent aussi, hein, Bruno, tu l'as vécu, c'est important d'être épaulé et d'avoir le soutien de tout le monde et de sentir qu'on est épaulé pour réussir. Et dans le rugby, au niveau national, j'avais assisté à l'époque à un colloque organisé, je crois que c'était Pierre Forest, la DJS à l'époque, où Pierre Villepreux nous disait qu'il était très important, quand il avait entraîné Toulouse, d'avoir l'appui de ses élus, des journalistes, du maire, du conseil.
Vous avez notre soutien, parce qu'on vous
suivra
avec grand intérêt. On suivra avec...
Je parle trop, c'est ça ?
On suivra avec grand intérêt ces championnats du monde. C'est peut-être l'heure, c'est à 17h30 de lancer la pause avant de revenir à tout à l'heure.
RRB, la pub.
Le carnaval de Nouméa fait son grand retour le samedi 13 septembre pour une 36e édition placée sous le signe de la nouveauté.
Rendez-vous cette année à la baie de Sainte-Marie avec un départ du défilé à 18h au niveau du rond-point d'Enghea. Les chars défileront sous vos yeux jusqu'au parc urbain de Sainte-Marie.
Au programme, des animations gratuites dès 16h tout au long du parcours et au parc urbain. Ambiance musicale, stand de restauration, spectacle de magie, manège.
Le carnaval de Nouméa, c'est ce samedi 13 septembre, baie de Sainte-Marie. Toutes les infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Vie.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
C'est le grand retour de la seigneurie en Nouvelle-Calédonie. Professionnels ou particuliers, retrouvez LA marque référence des peintures pour vos intérieurs ou extérieurs. Seigneurie by Ducos Quincaillerie, donnez vie à vos projets.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
La suite de votre semaine formidable, présidée par Léo Fichou exceptionnellement cette semaine, et ses invités, c'est la suite, et c'est tout de suite sur RRB.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Oui, seconde partie de cette semaine formidable. On va parler de Formule 1 avec un Grand Prix en Italie. Et cette fois-ci, ce ne sont pas les McLaren qui se sont imposés, Riccardo Baroni.
Oui, Monza, c'est le rendez-vous de tous les Italiens. Ferrari, avec Charles Leclerc qui fait quatrième, il sauve un petit peu la mise. Mais c'est vrai que ça a été un Grand Prix assez particulier, puisqu'on se rend compte que Verstappen n'a pas la meilleure voiture, mais que c'est un pilote au-dessus de la moyenne, vu ce qu'il fait au niveau des performances, la pole position, en plus gagner le Grand Prix, en sachant qu'au début, il a coupé un virage et il s'est retrouvé en tête. Son staff lui a dit de laisser la place au pilote qui était juste derrière lui, mais ça ne l'a pas empêché de reprendre la tête de la compétition et de la gagner. Et moi, je trouve que c'est un pilote qui peut être parfois contesté, mais c'est vraiment un pilote au-dessus des autres.
Au-dessus des autres, donc il a terminé en tête devant Lando Norris, Oscar Piastri, vous le disiez, Charles Leclerc 4e, George Russell 5, Hamilton 6, le premier français Isaac Hadjar, encore une fois, hein, il est là, il répond présent, alors il ne sera pas sur les podiums à chaque fois, on ne veut pas lui demander de d'émerveiller tous les week-ends, mais il est quand même
moi, ce qui m'a surpris de ce pilote, c'est qu'il est parti dernier, il faut savoir, dernière ligne.
Parce qu'il a changé de moteur. Hein.
Voilà, et qu'il finisse, si ma mémoire est bonne, 10e, donc c'est une sacrée remontée, et beaucoup de gens qui entourent la Formule 1 est vraiment surpris des performances de ce pilote. On en parle aussi de qu'il côtoie dans le futur dans l'équipe de Verstappen.
On lui promet un baquet chez Red Bull, la maison mère.
Baquet et se retrouver avec Verstappen. Donc ça fait plaisir de voir un Français arriver au haut niveau. dans une super voiture. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une équipe alpine, hein, donc française. Mais Hadjar, je pense que vraiment, c'est assez impressionnant les performances qu'il fait en Formule 1.
Isaac Hadjar, donc 10e de ce Grand Prix à Monza. Esteban Ocon, 15e. Pierre Gasly, 16e. Prochain rendez-vous, ce sera pas le week-end prochain, mais dans deux semaines, du côté de Bakou pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il y avait aussi de la moto ce week-end, MotoGP, du côté de Barcelone, Grand Prix de Catalogne. Et là, pas de surprise, encore une fois, les frères Marquez toujours au top. On sait que tous les week-ends se suivent et se ressemblent.
C'est vrai, mais je pense pas que ça soit utile de parler des frères Marquez, parce que si c'est pas l'un, c'est l'autre, et ainsi de suite. Moi, ce qui me surprend et que je suis dans la MotoGP, c'est Quartararo.
Qui revient.
Deuxième au niveau de la pole, juste derrière Alex Marquez, avec une moto qui est loin d'être performante. Le Grand Prix, il fait cinquième.
La course sprint, il termine sur le podium aussi.
C'est ça. Donc la compétition est fait cinquième. Il attend avec impatience et il semblerait que le prochain Grand Prix, il ait une nouvelle moto. J'espère que, vu les performances qu'il fait avec cette moto, pour pas la citer Yamaha, puisqu'on voit que ses équipiers qui ont la même moto font très loin au classement. Donc c'est vraiment le pilote qui est performant. Si on lui amène une très bonne moto ou une moto, on va dire, top niveau, je pense qu'on va se faire plaisir et voir à nouveau une victoire de ce pilote.
Qu'on attend depuis un certain temps, peut-être dès le week-end prochain, on suivra ça avec intérêt aussi du côté de Saint-Marin. Dimanche prochain, donc le prochain... prochain Grand Prix de MotoGP. Du tennis aussi, on va en parler, de ces finales tennis US Open, donc aux États-Unis avec la victoire une fois de plus, le sixième déjà, grand chelem pour Carlos Alcaraz qui a dominé Yannick Sinner en finale, 3-7-1.
Oui, Sinner, après la compétition, a affirmé que c'était le meilleur qu'il avait gagné, qu'il était vraiment au-dessus et que sa victoire était méritée. Il n'y a pas que la victoire, c'est qu'il est devenu aussi numéro un mondial. Donc, il a 22 ans, 6 grands chelems, c'est vraiment le top du top. Donc, même Yannick Sinner était, on ne va pas dire content d'avoir perdu, parce que personne n'est content, mais respectueux et a dit que vraiment, c'était le meilleur qui avait gagné cette finale.
Le meilleur qui a gagné chez les hommes, la meilleure chez les dames, toujours là, Rina Sabalenka, là, aussi numéro un mondial qui gagne une fois de plus un tournoi. Voilà,
mais elle a fait le doublé, tandis que Sinner a gagné l'année dernière l'US Open et espérait faire le doublé comme son ami, puisqu'ils sont amis dans la vie privée avec la tennis woman. Donc ça n'a pas été son cas. Espérons qu'on revoit de grands matchs de ce niveau dans le futur.
Dans quelques semaines, avec les finales du WTA, finale ATP, qui auront lieu début du mois de novembre, il me semble, les 8 meilleurs joueurs hommes, les 8 meilleures dames qui se retrouveront donc pour...
Oui, il y a quand même quelque chose que je voulais dire, c'est qu'une finale comme Roland-Garros, j'espérais avoir quelque chose qui ressemble à l'US Open, ça n'a pas été le cas. Maintenant, j'attends qu'une finale entre les deux soit du niveau de Roland-Garros où jusqu'à la fin, il y avait du suspense. Là, dès le début, Yannick Sinner a déjà perdu d'entrée le premier set donc, un écart assez élevé, c'est pas 6-4 ou quoi. Donc, on a déjà compris dès le début du match que ça allait être compliqué pour Yannick Sinner.
Du tennis, on passe au football avec les qualifications européennes à la Coupe du Monde. Avant de parler de ces qualifications européennes, un petit mot, parce qu'il y a aussi la Nouvelle-Calédonie qui pourrait participer à cette Coupe du Monde, qui va participer à des barrages en début d'année prochaine. Voilà, c'est ces qualifications à la Coupe du Monde qui continuent. L'équipe de France, de son côté, a remporté son premier match face à l'Ukraine. Une bonne entrée en matière, Olivier Deniau, dans cette compétition.
Une bonne entrée en matière. Après, en ce moment, c'est la polémique sur la blessure des deux joueurs du PSG. Hein. Or, mais bon, c'est vrai qu'on peut en discuter, sachant que les joueurs du Paris Saint-Germain ont joué très longtemps, puisqu'ils ont été jusqu'en finale de la Ligue des Champions, plus finale de la Coupe du Monde des clubs, donc ils ont eu très peu de récup.
Oui, les saisons se rallongent, hein,
le
beaucoup de joueurs.
Ils ont recommencé le championnat très tôt, donc forcément, ce genre de blessure, pour moi, c'est pas du tout une surprise. Hein, et puis, je pense qu'en effet, que Didier Deschamps et son staff ont pris les précautions nécessaires, enfin, qu'à un moment donné, le corps humain, quand tu le surcharges, c'est normal qu'il y ait quelques petites blessures qui arrivent. Et puis après, quand tu fais du sport de haut niveau, t'es toujours sur le fil du rasoir, tu cherches toujours à aller le plus vite, le plus haut, le plus loin possible, et de temps en temps, ouais, y a des petites choses comme ça.
Enfin, t'as raison, souvent les enjeux autres que sportifs, voilà. Notamment financiers, font que les joueurs jouent de plus en plus, que ce soit dans tous les sports, hein, et puis on se rend compte que ce sont pas des machines. Je pense qu'on foot, c'est deux matchs par semaine,
oui,
c'est ça.
Pour les
rugby, c'est un match par semaine avec une intensité.
Rugby, c'est pareil, tu vois, l'intensité qu'il y a. Tu parlais tout à l'heure du match Australie-Afrique du Sud. Oui. Je pense qu'en effet, s'ils rejouent la semaine prochaine, je sais
ils
pas
vont rejouer
comment ils font, oui. Les joueurs de rugby, quand tu vois les pets qu'ils prennent à chaque fois, plus l'intensité des matchs. C'est vrai qu'en effet, les kinés ont énormément de travail, et c'est normal que de temps en temps, il y ait des blessures.
Les mêmes problématiques, hein, que ce soit en foot, en rugby ou dans tous les sports, quoi, certains sports co, après le foot.
De contact.
Oui, mais bon, même on le voit, quoi. Tu parlais de la Coupe des Nations, la Coupe d'Europe, et ainsi de suite.
On rajoute,
pour avoir des droits TV, pour vendre encore plus l'image du sport.
Clubs, notamment, j'ai vu plusieurs joueurs qui jouent en Angleterre qui ont déclaré être blessés. Alors, je ne sais pas s'ils sont réellement blessés ou pas, mais il y a des blessures diplomatiques.
Ils ont besoin de pause
pour récupérer. Et les clubs qui payent les joueurs, parce que là, le problème, c'est ce qui se passe aussi. Moi, je me rappelle avoir fait quelques réunions à l'époque. Ça remonte à 2004, avec les DTN de tous les sports olympiques, et le DTN du basket disait que son métier c'était d'aller négocier les assurances pour les joueurs de NBA qui allaient jouer en équipe de France pour les Jeux d'Athènes.
Oui, on se rend bien, c'est exactement
ça. Et là c'est ce qui se passe, le débat c'est Ousmane Dembélé et puis
Désiré Doué
ont été blessés en équipe de France et ils ne pourront pas jouer
pendant entre 4 et 8 semaines.
Donc ça pose un problème au niveau des absences. L'employeur, il ne faut pas oublier que l'employeur c'est le club, c'est le PSG qui est employeur des joueurs.
Bien évidemment, on ne pourra pas forcément enchaîner sur tous les autres sports parce qu'il y a eu beaucoup de résultats ce week-end. Et la semaine dernière, on reviendra bien évidemment sur la suite du championnat du monde, du championnat d'Europe de basket la semaine prochaine. Puis avec les finales, il y a aussi eu du volley avec la victoire italienne chez les dames. Mais on va devoir tout de suite passer au coup de cœur et au coup de gueule. Je me tourne vers vous, Ricardo Baroni. Coup de cœur, coup de gueule ce soir ?
Coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est une déclaration de Yannick Sinner quand il se rapproche du filet de Carlos Alcaraz, de lui dire écoute, je te vois plus souvent que ma famille. Donc j'ai trouvé ça excellent. Après une défaite, avoir ce genre d'humour, ça fait plaisir.
On pourrait dire aussi, nous, avec tous les déplacements qu'on fait avec les sportifs.
C'est ça, toujours à droite, à gauche. Et puis,
j'ai fait attention quand même. et juste titre. Alors, moi, mon coup de cœur.
Ouais, Olivier Deniau.
J'ai un coup de cœur, un coup de gueule, mais je vais aller sur le coup de cœur. Allez. Je reste sur le PSG. Puisque, bon, certains savent que je suis supporter du PSG, toujours. Presnel Kimpembe, qui a changé de club.
Voilà, après toutes ces saisons.
20 ans au Paris Saint-Germain. Il a fait 241 matchs, hein, et là il est parti, je ne sais pas, il part dans les Émirats Arabes,
exactement.
Fin de carrière, parce qu'il n'a plus sa place au PSG tout simplement. Donc, encore une fois, je suis un entraîneur formateur qui a été formé au PSG.
Un petit parisien qui a fait 22
ans. Il a fait 20 ans au PSG, comme quoi ils peuvent rester au PSG au lieu de partir sur d'autres cieux. Donc, il a été champion du monde aussi, hein, donc voilà.
Merci Presnel Kimpembe. Bruno Salvé.
Moi j'ai un coup de cœur par rapport au match de ce matin qui opposait le Stade Toulousain à Clermont-Ferrand. Thomas Ramos qui a livré une prestation de qualité niveau mondial en pleine possession de ses moyens avec un jeu au pied incroyable. Et puis j'ai un petit coup de gueule. Je vais revenir sur ce que disait ce que disait Ricardo tout à l'heure par rapport aux gens qui bloquent des courses. C'est inadmissible. On peut pas mélanger. On peut pas prendre le sport en otage pour n'importe quelle idée, que ce soit politique ou autre.
Le message est passé. Merci beaucoup messieurs pour d'avoir participé à cette émission. Une émission donc qui se termine 17h44. Je vais laisser la place à Léana Colombo ce soir pour Info Soir le journal et cette émission Une Semaine Formidable qui sera disponible en réécoute dans quelques minutes sur notre site internet et sur notre page Facebook. Merci à tous pour votre écoute et une très belle soirée sur Radio Rythme Bleu.